Ça, ce qu'on appelle un catadioptre. Ça se met sur le vélo, dans la roue du vélo. Et puis je suis sûr qu'en plus, bon, y en a plein de sortes qui existent, de différentes formes, mais je suis sûr que cette forme-là, vous avez tous déjà vu ce genre-là, parce que c'est celui qu'on trouve sur tous les vélos. Quand vous achetez un vélo de tout neuf, en général, ils vous mettent cela dessus. C'est aussi un très bon exemple de ce qui se passe quand on fait de la réglementation et que les entreprises font un petit peu le minimum syndical pour que ça fasse, pour ça réponde, parce que le problème de ces catadioptres-là, c'est qu'ils cassent facilement. Vous avez, il y a des deux petites ailettes là pour les coincer dans les rayons. Et je suis sûr que tous ceux qui ont eu ça sur leur vélo et qui ont pas mal utilisé leur vélo, un jour ou un autre, le catadioptre, hop, il casse, il vole. Il suffit d'un petit choc, on cogne contre quelque chose. Ou alors si vous faites du vélo sur les petits chemins, là, ça secoue un peu trop, hop, pareil, ça casse. Ou alors parfois simplement avec le temps, entre le vélo qui reste au soleil et puis l'hiver, il y a le gel et tout. Voilà, ces petites ailettes en plastique, elles sont fragiles, ça casse facilement. Et puis parfois, en vous baladant le long d'une route, vous en avez peut-être trouvé, vu un par terre qui traînait. Ben, c'est un cycliste qui était passé, qui ne s'est pas rendu compte que ça avait sauté de son vélo. Alors pourquoi je vous parle de catadioptres ce matin ? Ben, moi, pendant l'été, avec ma famille, on aime bien aller sur la côte atlantique, à la mer. Et tout le long de la côte, là, ça va quasiment du Pays Basque jusqu'en Bretagne, au moins un truc comme ça, il y a un itinéraire de vélo qui s'appelle la Vélodyssée. Là, je vous ai mis une petite photo de l'endroit où nous, on en profite. On fait pas toute la, on remonte pas toute la France en vélo, hein. On n'a pas plusieurs centaines de kilomètres à faire. Mais parfois, pour aller à la plage ou pour se balader, ben on en profite. Vous voyez, c'est une sorte de petite route qui passe au milieu de la forêt, tranquillement. Donc, on est complètement séparé des voitures. Il n'y a que des vélos, des piétons. Donc, on risque rien. Et puis, ben, c'est très agréable, du coup, pour aller se promener, soit, comme je disais, pour aller d'une plage à une autre ou d'une ville à une autre sur la côte, et puis même pour aller visiter. Nous, il y a un phare qu'on aime bien aller voir de temps en temps, et bien, on passe par là. Et puis moi aussi, ben, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien faire du vélo, hein, et donc ben, souvent, l'été, une fois qu'on a couché les filles, le soir, hop, j'en profite, parce que l'été, les journées, elles sont longues, donc je saute sur le vélo, et puis je vais faire un petit tour. Ben, je ne sais pas si vous avez déjà fait du vélo au coucher du soleil, et en plus, en forêt. Ben, moi, je vous encourage, c'est super, c'est tout calme, c'est vraiment paisible. Et puis là, en plus, on risque rien. Oh, tu vas trop vite là-haut. Là, on risque rien, il n'y a pas de voiture à cet endroit-là. Donc, même à la rigueur, si vous voulez y rouler de nuit, du moment que vous faites un petit peu attention, vous n'allez pas avoir une voiture qui risque de vous couper ou de ne pas vous voir. Mais donc, forcément, comme c'est une route où il n'y a que des vélos qui passent, qu'est-ce qu'on trouve parfois au bord de cette route ? Catadioptre. Et moi, une soirée, il y en a, s'il te plaît, attends. Là, tu gâches tout. Et du coup, un soir, en baladant, j'en ai vu un qui traînait. Donc, machinalement, je l'ai ramassé. Ça fait un bout de plastique de moins dans la nature. Et je... Si on peut rester sur cette diapo, pour l'instant, je te dirai quand il faut avancer. Merci. Et donc, je l'ai ramassé. Je me suis dit, bon, allez, ça fait un plastique de moins. Puis un peu plus loin, j'en ai vu un autre. Bon, allez, je l'ai pris aussi. Et puis, je me suis pris au jeu. Je me suis dit, allez, tiens, à chaque fois que j'en vois, j'ai ramassé, j'ai mis de côté. Et bon, forcément, une fois que vous les avez ramassés, les soirs suivants, il n'y a pas des millions de vélos qui perdent des catadioptres tous les jours. Hein, on est d'accord. Mais quand même... En deux ou trois soirs, j'en avais quand même un petit paquet. Alors j'allais vous demander si vous avez une idée de ce que j'ai trouvé, mais elle nous a déjà mis la diapo. Donc effectivement, en quelques soirées, bah, des catadioptres, j'en ai eu pas mal là. J'ai tout ça que j'ai trouvé, je suis revenu avec tout ça dans les poches et dans le sac à dos. Pourtant, la fois où on a fait cette balade là avec la famille, j'en ai pas vu une seule. Et c'était pas après que je sois passé que j'ai tout ramassé, hein, que j'en ai pas vu une seule. À votre avis, pourquoi ces fois-là, j'en ai trouvé autant et pas la fois où j'étais avec ma famille là. Il y en a qui ont bien compris. Je vais vous donner un petit indice. C'est que la nuit, quand je pédale, il y a ça et il y a ça ici. Et qu'est-ce qui se passe avec une catadioptre quand on l'éclaire ? Eh bien, ça reflète la lumière. Effectivement, c'est à ça que ça sert. Hein. Et forcément, ben, quand vous arrivez de nuit même avec une toute petite loupiote sur la tête, eh bien, la catadiope, vous n'avez pas besoin de les chercher autour pour les trouver. En fait, tout de suite, dès qu'il y a un rayon de lumière qui les touche, vous voyez une sorte de flash orange sur le côté. Ah, il y a quelque chose qui traîne là. Vas-y, va sur la diapo suivante. Alors, est-ce que vous arrivez à la repérer ? Ah, alors dites-moi, où est-ce que vous voyez la... Non, faut me dire, parce que si tu pointes de là-bas, je vois que tu pointes à l'écran, mais je ne sais pas où sur l'écran. Hein. À droite, de ce côté-là, tu me dis plus haut, plus bas, à gauche, à droite ? Au milieu ? Là ? Ben, vas-y, avance la diapo, on va voir si je suis bon. Exactement. Bon, bien sûr, là, c'était sur un écran, c'est vraiment, ça fait un tout petit point. Mais en fait, voilà, ce petit point orange, quand on avance, ben ça saute bien aux yeux. Et c'est pour ça que je dis, j'ai pas fait exprès là de chercher toutes ces catadioptres là. Je me suis pas arrêté pour fouiller dans tous les fourrés, vérifier s'il y en avait autour. En fait, même en passant même à fond, hop, il suffit que la lumière éclaire un petit peu et parfois on les voit. Regardez même le suivant, il était planqué en plein milieu du buisson. De jour, on repère pas ce truc là. C'est au milieu du sable, des buissons, des épines de pin. Enfin, il y a plein de trucs tout autour. Ça passe complètement inaperçu. Et pourtant, de nuit, même planqué au milieu de tout ça, quand il y a un petit rayon de lumière qui arrive dessus, tout de suite, ça brille et ça se remarque. Et forcément, avec cette constatation, ça m'a rappelé quelque chose. C'est que nous aussi, on est appelés à briller dans le noir. Vous connaissez ce passage de la Bible où Jésus donne un conseil et il nous dit ça. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vas-y, continue. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà le conseil que Jésus nous a donné. Que nous soyons des lumières qui brillent dans le noir. Pourquoi ? Parce que le monde dans lequel on vit, bah, il est assez obscur. Hein. Il y a beaucoup de choses qui font qu'on dit que le monde il est ténébreux. Ténébreux, ça veut dire que c'est tout noir. C'est quoi qui rend le monde tout noir ? Bah, c'est tout le mal qu'on voit autour de nous. C'est tout ce que les gens font. Tous les gens qui ne connaissent pas Dieu et qui font des choses que Dieu n'apprécie pas. C'est ça l'obscurité qu'on voit dans le monde autour de nous. Et Jésus, lui, nous dit que votre lumière, elle luise ainsi devant les hommes. Alors, ça veut dire quoi ? Faire briller notre lumière dans ce monde tout obscur. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être ? Comment on brille ? Et mais concrètement, d'après le verset qu'on a lu, comment Jésus dit qu'on peut briller dans ce monde ? Exactement, c'est quand il voit comment on se comporte, il voit comment on parle, il voit comment on pense. Quand les gens voient qui on est, ils voient notre nature et notre façon d'être tous les jours, ils voient qu'il y a quelque chose qui brille par rapport aux autres. Jésus, il a dit que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Vos bonnes œuvres, ça veut dire que la lumière ne peut pas rester juste à l'intérieur, il faut que ça soit à l'extérieur aussi, ça doit se voir. On ne peut pas être chrétien et que ça ne se remarque pas. Alors, ce n'est pas parce qu'on va crier à tout le monde « Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien » qu'on brille. Non. Mais c'est parce que simplement les gens voient qu'il y a quelque chose de différent en nous. Les gens voient qu'on n'est pas aussi ténébreux que le reste du monde, qu'il y a quelque chose qui nous distingue et qui fait qu'au milieu de toute cette obscurité, au milieu de tout ce noir, nous, d'un seul coup, on brille. Et même si c'est une toute petite lumière, comme celle d'une catadioptre, ça suffit déjà pour qu'on la remarque même de loin. Là, j'aurais bien fait l'expérience de faire éteindre et fermer les rideaux et tout pour mettre dans le noir, essayer de voir si vous mettiez une petite lumière avec une catadioptre, vous auriez vu que ça se voit très très bien. Bah, c'est fait pour, hein. En même temps, quand vous êtes sur le vélo, sur la route, qu'il y a des voitures, il faut que tout de suite qu'ils vous remarquent. Et bien, c'est de la même manière que nous, on doit briller dans ce monde. Jacques, lui aussi, il a donné un conseil. Il a dit, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Alors à ça, Jacques répond, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que parfois, on se dit qu'être chrétien, c'est une étiquette qu'on se colle. On dit « je suis chrétien parce que je vais à l'église, parce que mes parents sont chrétiens. Je suis chrétien parce qu'on m'a dit que c'était comme ça. » Et Jacques dit « mais ça ne suffit pas. C'est pas parce qu'on dit qu'on l'est, c'est pas parce qu'on s'est collé une étiquette qu'on est vraiment chrétien, qu'on est vraiment converti, qu'on appartient vraiment à Jésus-Christ. » Jacques dit « ma foi, je vais te la montrer. » Mais pour te la montrer, je vais faire comment ? Ça va être par mes œuvres, ça va être par ma façon d'agir. Jacques, il donne plein de conseils d'ailleurs en disant d'aider ceux qui sont autour de nous, de prendre soin de ceux qui ont faim, de subvenir aux besoins de ceux qui n'ont rien. Et dit ça, c'est des exemples concrets qui montrent comment on peut briller, comment on peut montrer notre foi. Notre foi, c'est le fait qu'on est attaché à Dieu. C'est le fait qu'on aime Dieu. Et cette foi, elle doit se voir. Elle doit se voir à l'extérieur. Et j'ai envie de dire, c'est vrai que dans l'église, peut-être qu'on ne vous remarquera pas tant que ça. Après tout, si on est tous une lumière parmi plein d'autres lumières, ça se voit pas, on n'en distingue pas une énormément comme ça. Mais quand vous avez une lumière qui est toute seule au milieu d'une pièce sombre, là on la remarque. Et c'est là que vous devez briller le plus. C'est lorsque vous êtes à l'extérieur, au milieu du monde. C'est lorsqu'on est à l'école, c'est lorsqu'on est au travail, c'est lorsqu'on est avec peut-être une partie de notre famille qui ne connaît pas Dieu, que là, notre lumière va devoir briller. C'est là qu'on va devoir faire une différence. C'est là qu'on va devoir montrer qu'il y a l'amour de Dieu dans notre cœur. Ce qui nous fait ressortir, finalement, c'est le contraste, la différence entre notre façon d'être, notre façon de penser aussi, même ce qui se passe dans notre cœur est différent de ce qui se passe dans le cœur du reste du monde. Et le contraste entre ça et le reste du monde, vraiment, il doit être visible. Pas seulement à l'intérieur, se dire « oui, moi je suis différent », mais que les autres aussi disent « ah, toi tu es différent, toi tu ne fais pas comme tout le monde ». Maintenant, j'aimerais aussi insister sur un deuxième point. Ne vous inquiétez pas, il n'y en a pas beaucoup de points dans ma prédication, il n'y en a que deux. Et le premier, c'était celui-là, c'est qu'on doit briller dans ce monde. Et mon deuxième point, c'est comment on va arriver à briller. En fait, encore une fois, on ressemble beaucoup à ces catadioptres. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'une catadioptre, enfin un catadioptre, pardon, c'est, il paraît que c'est un nom masculin d'après le dictionnaire. Donc. Un catadioptre, si vous le mettez dans une pièce toute sombre, ben on ne le voit pas en fait. Hein. Tant que vous n'arrivez pas avec une lampe, le catadioptre, il ne brille pas. Il n'y a pas de pile dedans, il n'y a rien qui fait qu'il éclaire. Donc si vous le laissez dans la pièce toute sombre, comme ça, sans rien d'autre, vous ne le verrez pas. Par contre, dès que vous arrivez avec les phares d'une voiture, ou même une toute petite loupiote comme celle que j'ai sur mon casque, ça suffit pour qu'il se mette à briller. Et nous aussi, on ne brille pas de nous-mêmes en fait. Nous aussi, on est des réflecteurs. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Si vous voulez, on va lire ensemble un verset dans la deuxième épître aux Corinthiens. Au chapitre 3, Paul, il dit ça. « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Donc vous voyez ce qu'il a écrit au début ? Le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. On reflète la gloire du Seigneur. On est des réflecteurs, on est des catadioptres. Mais ce verset, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous le savez, la Bible, elle n'a pas été écrite en français. À votre avis, c'était écrit en quelle langue, ça, au départ ? Là, c'est une colle. Hein. En grec, oui. L'apôtre Paul, il a écrit à des églises grecques, donc ça a été écrit en grec, et pour avoir dans notre Bible en français, on l'a traduit. Sauf que quand on le traduit, en fait, suivant les traducteurs, ils ne sont pas tous exactement d'accord sur la façon de le traduire. Il y a deux façons qui reviennent, suivant les traductions. Donc la première, c'est celle qu'on vient de lire. Donc, notre visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Et la deuxième traduction, on la trouve par exemple dans la traduction du Semeur, vas-y si tu avances, elle dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. » Et moi j'aime bien ces deux traductions parce que je trouve qu'elles se complètent. C'est presque comme si une traduction expliquait l'autre. Pourquoi est-ce qu'on reflète la gloire du Seigneur ? parce qu'on contemple la gloire du Seigneur. Contempler, vous savez ce que ça veut dire ? Je suis pas sûr que tout le monde le sache. Hein. Contempler, c'est quand on regarde quelque chose, qu'on admire ce qu'on est en train de regarder. On l'observe vraiment, on a les yeux fixés dessus, parce que c'est tellement magnifique qu'on n'arrive pas à détourner les yeux. Et bien ça, c'est ce qu'on est censé faire si on veut arriver à refléter la gloire de Dieu. On doit contempler la gloire de Dieu. D'ailleurs, il y en a un pour qui c'était carrément littéral, ça. Là, en fait, Paul, il fait allusion à un épisode de l'Ancien Testament. Vous vous rappelez, Moïse, à un moment, il est monté sur la montagne, il a reçu les tablettes avec les 10 commandements dessus, que Dieu lui a donné. Et quand il est redescendu, est-ce que vous savez ce qui s'est passé ? Bon, les adultes, ils savent, parce qu'en plus, Luc, il m'a piqué la moitié de mes textes il y a 15 jours, hein, donc là, les adultes, ils doivent savoir. Mais moi, je demande aux enfants, est-ce que vous savez ce qui se passait quand Moïse est redescendu ? Alors, il y a des grands enfants qui ont répondu là-bas, son visage brillait. Il nous a dit que le visage de Moïse, il rayonnait. Il avait passé du temps, là, vraiment, dans la présence de Dieu, très, très proche de Dieu. C'était tellement manifeste que voilà, il y avait de la fumée, il y avait du tonnerre, il y avait des choses impressionnantes. Le reste du peuple, d'ailleurs, ils avaient peur de ça. Ils disaient à Moïse, mais toi tu vas, mais nous on reste là. Hein. C'est toi qui fais le porte-parole, on ne veut surtout pas s'approcher de ça, ça fait trop peur. Mais Moïse, lui, il n'avait pas peur. Il aimait monter et passer du temps dans la présence de Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que quand il ressortait de cette présence, ben, son visage, il brillait. À lui, c'était une catadioptre, enfin c'était un catadioptre, mais littéralement. Hein. Il rayonnait tellement que au bout d'un moment, ben le reste du peuple, quand ils le voyaient comme ça, ils avaient des yeux grands ouverts, ils n'écoutaient même pas ce qu'ils disaient, ils étaient concentrés sur le fait qu'il brillait. Alors Moïse était obligé de mettre un voile sur son visage pour qu'ils arrêtent de penser à ça et qu'ils écoutent un petit peu ce qu'il avait à dire. Le plus important, ce n'était pas que son visage brillait, c'était quand même le message que Dieu lui avait donné. Et pareil, à chaque fois qu'il rentrait dans le tabernacle, c'était pareil. Il enlevait son voile pour aller parler avec Dieu, mais dès qu'il ressortait, hop, il le remettait pour ne pas distraire les gens. Mais ça, Paul nous dit, finalement, c'est une image de ce que nous aussi, nous devons vivre. C'est que quand on va contempler la gloire de Dieu, nous aussi on va refléter cette gloire. Alors, on va pas voir la peau qui se met à briller comme Moïse, hein. Ça, enfin moi j'ai pas encore croisé de personne comme ça. J'espère pas, parce qu'en général ça peut être quand même inquiétant. Mais on est quand même appelé à refléter cette gloire de Dieu. C'est le roi David, dans un des psaumes d'ailleurs, qui disait, dans le psaume 34 au verset 6, « Quand on tourne vers lui les regards, lui c'est le Seigneur, hein, c'est Dieu. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. » Quand on regarde vers Dieu, sur notre visage ça se voit. Il y a une joie sur notre visage. Parfois même quand on est dans des moments difficiles, eh bien, le fait de regarder à Dieu, ça nous aide à retrouver une certaine joie sur notre visage. Le visage de quelqu'un qui passe son temps à regarder Dieu, c'est pas le même que celui de quelqu'un qui ne le regarde jamais, et en particulier dans ces moments difficiles. Parce que dans les moments difficiles, tous, on a tendance à être un peu triste. On a tendance à s'apitoyer sur notre sort, à se dire « Mais comment je vais me sortir de ça ? Qu'est-ce qui va bien pouvoir arriver maintenant ? Je suis au fond du trou, là. » Mais lorsqu'on regarde à Dieu, il nous est dit que là, le visage, il retrouve cette joie. Et j'aimerais voir avec vous aussi comment est-ce qu'on peut contempler Dieu. Contempler Dieu, ça peut sembler un petit peu abstrait comme façon de parler, contempler Dieu, mais on ne le voit pas, Dieu. Comment est-ce qu'on va le contempler ? Ben, je vais vous donner quelques petites idées de façon dont vous pouvez contempler Dieu. Ce n'est pas limité à ce que je vais vous présenter, mais c'est des exemples pour expliquer comment on peut contempler Dieu. La première chose, la première façon, c'est en lisant sa parole. Quand vous lisez la parole de Dieu, ben la parole, c'est comme une lumière qui nous éclaire. Vous connaissez ce verset, hein, dans le psaume, qui dit « Ta parole, c'est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Voilà. Et donc cette parole, elle nous éclaire. Elle nous éclaire de quoi ? De la lumière de Dieu, de la gloire de Dieu. Et plus je lis sa parole, plus je passe de temps dans sa parole, plus je contemple là tout ce que Dieu a fait, je contemple qui il est, j'apprends à le connaître. Et donc du coup, ben, ça peut me... Parfois j'aime bien dire me contaminer. C'est pas une maladie, mais c'est pareil, ça se transmet. C'est contagieux, mais plutôt dans le sens comme un rire, c'est contagieux. Vous savez, quand vous mettez à rire et les autres autour, ils ne savent pas pourquoi, mais ils se mettent à rire aussi. Mais là, c'est pareil avec Dieu. Plus on le regarde, plus on a envie d'être pareil. Plus on a envie de rayonner pareil. Une autre façon dont on peut le contempler, c'est au travers des témoignages et puis même de simplement de se rappeler ce que Dieu a fait. Ça peut être moi-même qui me rappelle ce que Dieu a fait pour moi dans le passé. Ça peut être quand je le partage avec des gens. Ça peut être quand j'écoute d'autres personnes qui le partagent. Mais voilà ce que Dieu fait dans nos vies. C'est pas fait pour qu'on le garde secret, c'est fait pour être partagé et pour nous rappeler combien Dieu est bon envers nous. Lorsque Dieu a délivré les Israélites, lorsque Dieu a fait toutes sortes de miracles pour eux, il leur a dit, mais répétez-le de génération en génération, enseignez-le à vos enfants et aux enfants de leurs enfants et ainsi de suite. Il fallait que tout le monde partage ce que Dieu avait fait parce que c'était une façon de se rappeler qui Dieu est, de se rappeler ce qu'il fait et se rappeler combien il nous aime aussi. Contempler Dieu, ça implique qu'on pense à lui, qu'on pense à ce qu'il a pu faire pour nous. Et lorsqu'on partage tout ça entre nous, là aussi on contemple sa gloire. Parce que tout ce que Dieu fait pour nous, c'est glorieux. Lorsque Dieu accomplit quelque chose pour nous qu'on n'attendait pas, lorsque Dieu accomplit même un miracle, ou quelque chose parfois que les gens diront « mais non, c'est juste une coïncidence ». Mais oui, mais la coïncidence est tombée tellement au bon moment quand même, qu'on a été impressionné. Et là on se dit « mais quand même Seigneur, c'est magnifique ce que tu fais ». Mais ça, c'est contempler Dieu aussi. Une autre façon de contempler Dieu, c'est comme on a fait juste avant cette prédication, c'est quand on passe un temps dans la louange, dans l'adoration. Ça veut dire quoi, louer Dieu ou adorer Dieu? Oui, ce matin, c'était pas avec la Bible qu'il fallait venir, c'était avec le dictionnaire, mais bon. Voilà. Louer, étymologiquement, enfin du moins la définition, c'est dire du bien de quelqu'un, de quelque chose. Donc, quand on loue Dieu, on dit du bien de Dieu. Lorsqu'on adore Dieu, c'est un peu la même chose. La différence à la rigueur qu'on fait parfois entre louange et adoration, c'est que dans un cas, on dit du bien à propos de ce qu'il a fait pour nous, et l'adoration, c'est à cause de ce qu'il est. Parce que lui, il est Dieu, et parce qu'il est Dieu, il mérite qu'on dise combien il est grand, combien il est formidable, combien il est magnifique, combien il est puissant, combien il est bon, combien il nous aime. Toutes ces choses-là, c'est la nature même de Dieu. C'est comme ça le définit. Et c'est parce qu'il est comme ça qu'on l'aime aussi et qu'on est attiré vers lui. Et ça, c'est l'adoration. Et la louange, c'est de dire, t'as fait des choses formidables, Seigneur. Ah, t'as fait sortir le peuple du pays d'Égypte. Ah, tu as guéri telle personne qui était malade depuis longtemps. Ah, tu as donné un travail à un ami qui n'arrivait pas à trouver de travail depuis un moment. Toutes ces choses-là, ça, c'est de la louange. C'est de dire à Dieu, mais c'est tellement formidable ce que tu fais. Et la louange et l'adoration, vous voyez, c'est complémentaire de ce que je disais dans les témoignages où on se rappelle ces choses. La louange, on s'en rappelle. En plus, on va dire à Dieu combien on est reconnaissant pour tout ça. Et lorsqu'on fait ça, on contemple la gloire de Dieu. Une dernière façon que j'ai notée, et après je vous laisserai compléter vous-même la liste, vous pourrez inventer plein d'autres façons de contempler la gloire de Dieu, c'est dans la prière. Parce que lorsque vous êtes dans des moments difficiles, justement, souvent vous vous rendez compte que vous n'avez pas de solution. Parfois, on traverse des choses qu'on garde un peu pour nous parce qu'on ne voit pas comment les autres autour de nous même pourraient nous aider. Parfois même, on aimerait bien aller en parler aux parents, mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire à ça? On aimerait bien aller en parler peut-être à un prof, et puis on se dit, mais même lui, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour m'aider là-dedans? Et parfois, les situations dans lesquelles elles sont tellement compliquées qu'on ne voit pas comment qui que ce soit pourrait nous aider. Mais pourtant, la Bible, elle nous dit qu'il y en a un qui pourrait toujours nous aider, c'est Dieu. Et ce qu'il attend de nous, c'est qu'on vienne le voir, qu'on se mette devant lui dans la prière, et qu'on lui dise, Seigneur, tu vois ce que je traverse. Tu vois combien c'est difficile pour moi en ce moment, et je ne sais pas quoi faire pour m'en sortir. Mais je sais que toi, tu peux m'aider. Lorsqu'on vient vers Dieu en lui disant, je sais que toi tu peux faire quelque chose, on est en train de contempler sa gloire, parce que c'est un peu comme si on était en train déjà de se projeter, de dire, mais je sais que tu vas faire quelque chose là. Je ne sais pas quoi encore, mais c'est presque comme si je le voyais déjà. C'est comme si je voyais déjà que tu vas accomplir un miracle dans ma vie, et je te fais confiance parce que je sais que ça va arriver. Et quand je fais ça, je suis déjà en train de regarder la gloire de Dieu parce que je sais qu'elle va arriver, je sais que ça va se manifester. Je sais qu'il va se passer quelque chose. Je sais que Dieu ne peut pas me laisser avec mes problèmes et qu'il va m'aider à un moment à en sortir. Et bien quand je suis dans la prière comme ça, avec cette attitude d'humilité, de dire à Dieu, oui, je sais que moi je ne peux rien faire, mais que toi tu peux tout, là on est en train aussi de contempler la gloire de Dieu. Oui, contempler la gloire de Dieu, c'est le plus important dans notre vie. Et si on veut pouvoir refléter cette gloire de Dieu, refléter sa lumière, ben voilà, il faut être conscient d'où provient cette lumière. Cette lumière, on l'a chanté tout à l'heure. C'est qui la lumière? C'est Christ. Christ est la lumière. Si vous vous rappelez de l'histoire de Jésus, ce qui lui est arrivé quand il était tout petit, c'était encore qu'un bébé. Et ses parents l'ont amené dans le temple pour le présenter. Et là, quand ils sont rentrés dans le temple avec le bébé, Marie devait porter le bébé là dans ses bras, il y a quelqu'un qui est venu vers eux, qui s'appelait Siméon. Siméon, lui, c'était quelqu'un qui aimait Dieu et qui attendait depuis longtemps de voir le Messie qui avait été annoncé. Et ce jour-là, Dieu lui a dit, ça y est, va au temple aujourd'hui, c'est aujourd'hui que tu vas le voir. Et quand il est arrivé au temple, il est tombé sur qui? Ben sur Marie et Joseph, avec ce petit bébé dans les bras. Et là, l'Esprit de Dieu lui a dit, c'est lui. Et il était tellement content qu'il s'est mis à prophétiser. Et il a dit ces quelques paroles, en s'adressant à Dieu, il lui a dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé pour tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. » Lorsque Siméon a vu ce petit bébé là, personne ne savait encore ce qu'allait devenir Jésus, tout ce qu'il allait faire, tous les miracles qu'il allait accomplir. Personne ne savait encore que Jésus allait aller jusqu'à la croix pour sauver le monde entier. Mais Siméon, lui, il a perçu ça parce que Dieu le lui a révélé, que ce petit bébé, c'était la lumière du monde. Ce petit bébé là, bien sûr, c'est pas quand il était bébé qu'il a pu faire toutes ces choses là, mais déjà, au travers de ce que Dieu lui a montré, il a réalisé qu'en grandissant, il allait être une lumière qui allait briller et éclairer le monde entier. Dans une des photos qu'il y avait à côté des versets, vous avez vu, j'ai pris une photo d'un phare. C'était un phare qui était justement pas loin de là où on était en vacances et que j'ai pris de nuit. Et ce qui est marrant, c'est quand vous le voyez la nuit, ben vous voyez le haut qui tourne là avec les rayons lumineux qui éclairent comme ça. Et ça éclaire vraiment à plusieurs dizaines de kilomètres en distance. C'est pas infini parce que la Terre, vous savez, c'est arrondi, donc forcément, au bout d'un moment, ça passe au-dessus des bateaux. Mais tant que vous pouvez voir le phare à l'horizon, ben, quand il est allumé la nuit, vous voyez ce point lumineux comme ça qui revient. Ça éclaire très très loin. Et Jésus, il est un peu comme ça, il est comme ce phare qui éclaire très très loin à la surface du monde. Et pour que tout le monde le remarque, c'est vrai que tout le monde n'est pas tourné vers le phare. Si vous êtes dos au phare, vous ne le voyez pas. Si vous êtes juste au pied du phare, forcément, la lumière, elle envoie énormément, ça éclaire tout autour. Ça se voit tout autour de vous. Mais si vous êtes un peu loin, le phare, ça fait juste un point lumineux qui revient avec une certaine fréquence parce qu'ils n'ont pas tous la même pour qu'on arrive à les reconnaître. Mais voilà, vous voyez ce petit point qui s'allume. Et forcément, si vous êtes dos à ça, vous ne voyez rien. Mais si vous mettez un miroir devant vous, là, vous allez le voir. Et Jésus, c'est ça qu'il veut de notre part. C'est que lui, il éclaire le monde entier, mais tout le monde n'a pas les regards tournés vers lui. Donc tout le monde ne le voit pas forcément. Alors il nous a placés, nous, chacun d'entre nous, comme des petits miroirs un peu partout dans le monde, pour renvoyer la lumière partout. Et pour être sûr que même ceux qui ne regardent pas vers lui, un jour, ah, ils croisent du regard, ah là, il y a un éclair de lumière, c'est quoi cette lumière? Ben, cette lumière, c'est la lumière de Christ qui se reflète sur nous. Cette lumière, c'est Jésus qui brille en nous. Alors, ma conclusion, elle est simple, hein. C'est que Jésus nous a donné une mission, celle de briller dans le monde. Vous l'avez vu, c'est le premier verset qu'on a lu. Briller dans ce monde, parce que ce monde il est tellement sombre que forcément, lorsqu'on brille même un petit peu, ça va se voir. Mais si on veut vraiment arriver à briller dans ce monde, ben, ça ne va pas être par nous-mêmes. Nous, on n'a pas de pile à l'intérieur pour s'allumer. Nous, on n'est pas une lampe torche qui peut, avec un bouton d'un seul coup, éclairer d'elle-même. Nous, on est juste un petit réflecteur. On est un petit réflecteur qui a besoin de cette lumière qui nous éclaire pour pouvoir la refléter vers les autres. Alors, ce que je veux vous laisser comme conseil, c'est celui-là, c'est contempler tout le temps la gloire de Dieu. Regardez à Dieu, vous avez vu toutes les façons dont on peut le faire, hein, que ce soit en lisant la Bible. Vous pouvez le faire tout seul si vous savez déjà lire. Vous pouvez le faire avec vos parents. Ça peut être en partageant ce que Dieu a fait pour vous, en écoutant ce que Dieu a fait pour les autres. Ça peut être en louant Dieu. Ça peut être en lui demandant son aide. Toutes ces façons comme ça de s'adresser à Dieu, de penser à lui, c'est contempler la gloire de Dieu. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir refléter cette gloire et la manifester autour de nous. Vous savez, parfois on dit que plus on passe du temps avec certaines personnes, plus on commence à leur ressembler. Souvent, c'est même pas forcément dans le bon sens. Mais voilà, plus vous regardez certaines personnes, en général, plus vous commencez à leur ressembler. Moi, j'avais entendu parfois, une fois, un prédicateur qui disait qu'il avait appris à jouer de la trompette quand il était jeune, et puis il avait un trompettiste qu'il admirait particulièrement. Alors, il écoutait beaucoup, il regardait beaucoup, et à force de se concentrer sur lui, même dans sa façon de jouer, il l'imitait, il avait les mêmes petites cycles, les mêmes façons de faire. Et vous savez, ça marche même pour les prédicateurs. Hein. J'ai déjà dit dans le passé, mais parfois, souvent, en écoutant un prédicateur, vous savez qu'il a formé. Et voilà, quand on passe beaucoup de temps avec une personne, qu'on l'observe beaucoup, parfois on commence à prendre des habitudes qui ressemblent à cette personne, des façons même de parler ou de se comporter. Et avec Dieu, c'est pareil. Plus on passe de temps avec lui, plus on le regarde, plus on l'observe, on le contemple, plus on lui ressemble. Alors que Dieu nous aide tous vraiment à contempler Dieu pour qu'on puisse être ces petits réflecteurs, ces petits miroirs disséminés partout sur la terre qui reflètent la gloire et la lumière de Jésus-Christ. Amen. On va prier, on va demander à Dieu de nous aider à vraiment mieux lui ressembler tous les jours et mieux refléter sa gloire. D'accord ? Seigneur, c'est vrai que tu nous as appelés à briller dans ce monde qui est obscur, qui est sombre, ce monde de ténèbres dans lequel parfois on peut perdre espoir, mais au milieu de cette obscurité, tu nous as placés comme des lumières, comme des flambeaux. Et plus que ça, tu nous as placés comme ces réflecteurs qui sont censés renvoyer ta lumière. Parce que la seule source de lumière véritable, c'est toi, Seigneur. C'est toi, Jésus, qui a brillé et qui a resplendi sur cette terre, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons apprendre à refléter ta lumière, à renvoyer ta lumière autour de nous. Oui, Seigneur, aide-nous à passer toujours plus de temps dans ta présence, pour te contempler, pour t'observer, pour te regarder, pour voir combien tu es grand, combien tu es glorieux, combien tu es magnifique, et que nous puissions, nous aussi, refléter tout ça, Seigneur mon Dieu. Que les gens autour de nous puissent voir en nous ton amour, ta joie, ta paix, ta bienveillance, tout ce qui fait ce que tu es, Seigneur. Oui, nous voulons refléter ta nature. Alors aide-nous vraiment dans nos paroles, dans nos gestes, dans nos actions, dans tout ce que nous faisons jour après jour. Aide-nous à être vraiment ces lumières qui brillent dans les ténèbres, Seigneur. Sois béni, mon Dieu. Amen.